L'assassinat du courrier de Lyon, chapitre 5. À la prison de Melun, un juge atteint de déformation professionnelle, une lettre qui se retourne contre son auteur, devant le tribunal criminel de la Seine, l'acte d'accusation, attitude de Lesurque. Autant Daubenton était un magistrat sagace, prudent, épris d'équité et, malgré son inexorable sévérité, accessible à la pitié, chaque fois que ceux qu'il était chargé d'interroger lui en semblaient dignes, autant le citoyen Menessier, le nouvel instructeur, était un homme impulsif, nerveux, pétri de préjugés et de parti pris, arrogant, cassant, est déjà atteint de cette déformation professionnelle qui consiste, chez certains magistrats, à considérer tout inculpé comme un coupable. Décidé à faire table rase de l'enquête qu'avait commencée Daubenton et de ne tenir aucun compte des résultats acquis par son collègue parisien, il reprit l'instruction depuis le commencement, ne tenant compte que de ce qui était à charge des accusés, notamment pour Lesurque et Guénot, pourtant si différents de leurs prétendus complices, par le milieu honorable dans lequel ils avaient vécu, et par la signification morale de leur situation et de leur conduite. Placé plus près du théâtre du crime, il prit pour point de départ les témoignages locaux sans se préoccuper sérieusement des témoignages contraires. Il y avait eu 5 assassins au Closot. On lui présentait 5 prévenus. Cela lui suffisait pour qu'il les considérât comme les auteurs du crime qui avaient coûté la vie au courrier Excoffon et au postillon Audebert. Un incident, d'ailleurs des plus fâcheux, allait se produire à la charge de l'infortuné Lesurque. Le soir même de son arrivée à la maison d'arrêt de Melun, Lesurque ainsi que tous les inculpés avaient été fouillés et, dans l'une de ses bottes, on avait découvert, inachevé, maculé et froissé, cette lettre qu'il écrivait à un de ses amis, le sieur Baudard. « Mon ami, depuis que je suis à Paris, je n'ai éprouvé que des désagréments. Mais je ne m'attendais pas et ne pouvais m'attendre au malheur qui m'accable aujourd'hui. Tu me connais et sais que je suis incapable de me souiller d'un crime. Eh bien, le plus affreux m'est imputé. La seule pensée m'en fait frissonner. Je me trouve impliqué dans l'affaire de l'assassinat du courrier de Lyon. Des gens que je n'ai jamais vus et dont je ne connais même pas le lieu de leur domicile, car tu sais que je ne suis pas sorti de Paris, ont eu l'impudence et la méchanceté de déclarer qu'ils me reconnaissaient et que je m'étais présenté à cheval. Tu sais aussi que je n'y suis pas monté depuis que je suis à Paris. Tu comprends de quelle importance est une pareille déposition qui ne tend à rien moins qu'à me faire assassiner juridiquement. Oblige-moi de m'aider de ta mémoire et tâche de te rappeler où j'étais et quelles sont les personnes que j'ai vues à Paris, à l'époque où l'on me soutient impudemment m'y avoir vu dehors. Je crois que c'est le 7 ou le 8 du mois dernier. Afin que je puisse confondre ces infâmes calomniateurs et leur faire subir la peine prescrite par les lois. Tu m'obligeras de voir Legrand, et tu lui demanderas quel jour j'ai déjeuné avec lui, chez Le Brou. Je crois que c'est le 8. S'il ne se rappelle point précisément le jour où il m'a vu chez lui, tu verras également Tixier, et tu l'engageras à se rappeler le jour où j'ai déjeuné avec lui et le général Cambrai, et le jour où il m'a vu chez lui. Tu verras aussi Hilaire Ledru, avec qui j'ai bu un verre de liqueur vers les 5 heures dans un café, ainsi que la citoyenne Eugénie d'Argence, qui pourra certifier que, ce jour-là, j'ai passé la soirée avec elle. Ensuite, mon cousin et ma cousine Lesurque, qui savent très bien que je n'ai jamais découché. Enfin, les ouvriers qui travaillent à mon logement, ainsi que la portière, et qui pourront affirmer qu'ils me voyaient tous les jours, tantôt le matin, tantôt l'après-dîner. Vois-les tous, et rends-moi compte des témoignages que je pourrai en tirer. C'est un service que je réclame en grâce à ton amitié. Tu m'obligeras également de voir souvent ma pauvre femme et de la consoler. Va trouver le citoyen Godin, qui demeure rue Goudreau, numéro 720, près de la rue Caumartin. Tu l'engageras à prendre ma défense et celle de Guénaud, arrêté pour le même fait que moi. S'il ne le peut pas, tu le prieras de nous désigner un défenseur sur lequel on puisse compter, un honnête homme, enfin, un autre lui-même. Mis en possession de ce document, le juge Ménessier estima que cette lettre avait été écrite pour faire la leçon à son destinataire et qu'elle ruinait d'avance tous les arguments que le Zurk allait invoquer pour établir cet alibi destiné à le laver de l'accusation formidable qui pesait sur lui. Aussi, lorsque le Zurk, interrogé par lui, viendra lui déclarer que le 8 floréal au matin, il se trouvait chez le citoyen Legrand, orfèvre bijoutier, où il y était resté jusqu'à 2 heures, qu'il était allé de là rue Montorgueil, chez son cousin, en compagnie du peintre Hilaire Ledru et d'autres personnes dont il ne se rappelait plus le nom, et que ce jour-là encore, vers les 6 heures du soir, il s'était promené sur les boulevards et y avait rencontré le citoyen Guénaud, qu'ils étaient rentrés tous deux au café qui fait le coin de la Comédie italienne, où ils avaient pris chacun un verre de liqueur, qu'ensuite il avait soupé et couché chez son cousin, le juge Menessier, dont le siège était fait d'avance, se contentera de hausser les épaules et, ainsi que pour les autres inculpés, qui, plus ou moins sincèrement, s'évertuent à fournir un emploi de leur temps le 9 floréal, il ne se donnera même pas la peine de contrôler l'alibi fourni par le Zurk et de faire comparaître devant lui les témoins honorables que l'accusé invoquera pour sa défense. Après avoir interrogé les 6 prévenus et cité pour la forme les principaux témoins, déjà entendus au cours de l'instruction de Daubenton, et qui renouvelèrent intégralement leur déposition, le citoyen Menessier renvoyait le dossier au commissaire du pouvoir exécutif Loisel, qui, le 8 Messidor suivant, prenait ses conclusions de renvoi devant le jury d'accusation. Ce jury se réunit le 10 Messidor. Après lecture de l'acte d'accusation et des observations du commissaire exécutif, il déclara qu'il y avait lieu de poursuivre, et, sur cette déclaration, le citoyen Menessier rendit une ordonnance de prise de corps qui renvoyait les 6 prévenus devant le tribunal criminel. Ces derniers, usant de la faculté que leur accordait la loi de choisir le tribunal criminel devant lequel ils voulaient comparaître, déclarèrent opter pour le tribunal de la Seine. Les débats s'ouvrirent le 15 Thermidor, 2 août. Quelques mots sur ce tribunal criminel qui remplaçait alors l'office de nos cours d'assises modernes. Il était présidé par le citoyen Goyer, un très honnête homme, mais qui, moins juge qu'accusateur, ne voyait que ce qui sert à condamner, et il sacrifiait au raisonnement de l'homme celui qu'il aurait sauvé s'il n'avait admis que les preuves de la loi. Nul mieux que lui ne savait intimider les témoins et les amener à déposer dans un sens favorable à l'accusation. C'était un homme aussi redoutable pour les innocents que pour les coupables. Autant Couriol, Bernard, Richard et Bruère ne tenaient guère à voir luire pour eux l'aube des débats, autant Le Zurk et Guénaud semblaient impatients de voir commencer leur procès, tant ils espéraient que les débats au grand jour leur permettraient de faire éclater leur innocence et que les jurés devant lesquels ils allaient se présenter, se montreraient moins rigoureux, moins fermés et moins partiaux que ne l'avait été le juge Menessier, qu'ils étaient en droit de considérer comme le principal artisan de leur malheur. À ce moment, l'affaire du courrier de Lyon commençait à être un peu oubliée. Aussi, l'annonce du procès n'avait-elle pas remis dans le public un grand mouvement de curiosité. Lorsque le président, suivi de ses assesseurs, vêtu comme lui d'un habit noir, avec un manteau de soie à parements, portant un sautoir au ruban tricolore, au bout duquel était attachée une médaille dorée, sur laquelle était écrit « La loi », coiffé d'un chapeau rond, relevé sur le devant par un bouton et une ganse d'or, vinrent prendre place sur l'estrade d'où ils dominaient toute la salle. Il n'y avait qu'une assez faible affluence, en grande partie composée par les nombreux témoins à charge et à décharge et les amis de Lesurque qui, convaincus de son innocence, étaient venus lui apporter en cette circonstance si tragique les témoignages de leur inaltérable amitié. En fait, l'affaire du courrier de Lyon allait se transformer en affaire Lesurque. C'était lui qui, au cours de cet extraordinaire drame judiciaire, allait devenir la première et sensationnelle vedette. Les 12 jurés étaient assis à leur banc. Derrière le tribunal, le citoyen Daubenton se tenait avec quelques magistrats et les accusés séparés par un gendarme étaient assis dans le banc des détenus dans l'ordre suivant. Couriol, Lesurque, Richard, Bruère, Bernard et Guénaud. La salle était située au premier étage du palais de justice. C'était une pièce rectangulaire, assez sombre, sobre de décoration, et qui occupait l'emplacement de la troisième et de la quatrième chambres actuelles. Bien qu'il ne fût que 10 heures du matin, il faisait déjà une chaleur intolérable. Et comme Lesurque transpirait beaucoup et s'essuyait le visage avec son mouchoir, le citoyen Roiteau, qui en sa qualité d'assesseur se trouvait à la droite du président Goyer, se pencha vers lui et lui dit à l'oreille « Voyez ce bandit de Lesurque, il pleure déjà. » « Larme de crocodile, » murmura entre ses dents le féroce inquisiteur. Aussitôt, Goyer donnait la parole au greffier pour la lecture de l'acte d'accusation. Ce document, beaucoup trop long pour que nous le reproduisions dans ses colonnes, est d'ailleurs d'une rédaction lourde, épaisse et singulièrement indigeste, et il ne tarderait pas à fatiguer et même à décourager nos lecteurs. Nous l'avons cependant étudié avec le plus grand soin, car lorsque nous avons entrepris ce récit, avant d'adopter la thèse de l'innocence de Lesurque, nous avons voulu nous entourer de toutes les garanties nécessaires. Nous ne nous sommes pas contentés de la tradition, de la légende, et nous n'avons tenu aucun compte de la fiction qui a jeté en quelque sorte une brume d'inexactitude sur cette affaire, qui devait passionner beaucoup plus les générations suivantes que ses contemporains. Poussant jusqu'au bout le souci de la documentation, nous avons même voulu relire la fameuse pièce dite « Le courrier de Lyon » qui, créée à Paris en 1859 au Théâtre de la Gaîté, remporta un succès d'émotion tel qu'elle devait rester très longtemps au répertoire des théâtres de drame. Si nous sommes les premiers à reconnaître que ce mélodrame est fort bien construit, et si nous y avons découvert, sous un dialogue désuet, des traces de sensibilité indéniables, il n'en est pas moins vrai qu'il bouscule la vérité avec un tel sans-gêne que nous en arrivons à nous demander si l'exposé des faits réels de l'affaire, telle qu'elle s'est passée et telle que nous nous efforçons de l'évoquer ici, tout en provoquant un effet moins direct sur les nerfs du public, n'est pas appelé à impressionner son cœur et son esprit d'une façon plus juste et plus humaine. Rien, en effet, n'est supérieur à la vie réelle, pour empoigner ceux qui y participent chaque jour de la façon la plus effective et sont, mieux que personne, à même d'en saisir à la fois toutes les beautés et toutes les laideurs. Mais revenons à l'acte d'accusation. Lorsqu'on voit les choses avec le recul du temps, qu'on se dégage de toute espèce de parti pris, qu'on se sent bien à l'abri de tous ces courants d'opinion, de toutes ces influences qui peuvent se produire à une époque déterminée, et surtout, lorsqu'on se donne la peine de lire entre les lignes consacré aux arguments de droit et de fait qu'il renferme, on demeure effaré de l'acharnement que l'accusation déploya contre l'Euzurque. Paralysant sa défense, repoussant d'avance tous les témoignages qui pouvaient lui être favorables, retournant contre lui les faits capables, sinon de l'innocenter entièrement, mais tout au moins d'atténuer ce qui lui était reproché, ce document donne par instant l'impression beaucoup plus d'un pamphlet que d'un document judiciaire. Laborde, d'ailleurs en fuite, Courriolle, Richard, Bernard, dont la culpabilité et la complicité sont faciles à démontrer, se voient l'objet des réquisitions les plus sévères et les plus légitimes. Bruère, comparse sans intérêt, est plutôt ménagé. Mais c'est surtout sur Guénot et principalement sur l'Euzurque que s'étend l'auteur de cet acte. Guénot, ici nous citons textuellement, Guénot, qui se dit ruiné par la Révolution, a des moyens d'existence inconnus et est en ce moment poursuivi par l'administration de Douai pour la remise de 3 pièces d'argenterie qui lui ont été confiées et qu'il prétend lui avoir été soustraite par un voiturier infidèle que, depuis 10 mois, il assure pouvoir retrouver. Assertion que l'accusé a victorieusement réfutée au cours de l'instruction. Mais continuons. Guénot, qui, malgré les soupçons planant sur sa tête, a eu la hardiesse de revenir de Château-Thierry avec Courriolle, arrêté dans la voiture de Bernard. Pouvait-il faire autrement, puisqu'il en avait reçu l'ordre de l'inspecteur de police Eudon? Et alors, pourquoi n'a-t-on pas arrêté le citoyen Gaulier, qui assistait lui aussi au fameux dîner chez les Richard, où se trouvait Courriolle, et n'avait pas hésité à donner à celui-ci la plus large hospitalité? Citons toujours. Guénot, qui, par une espèce de miracle, jouissait encore de sa liberté, et dont les assiduités au bureau central, toutes les fois que Courriolle devait y paraître, ce qui est faux, n'avait pu dessiller les yeux de la police, n'a été arrêté, ainsi que l'Euzurque, que par suite d'un de ces événements ménagés par la Providence. Et ceci, autre inexactitude. Qui sollicite au bureau central pour Courriolle? Guénot et l'Euzurque, qui ne se quittent pour ainsi dire pas, depuis que Courriolle est arrêté. N'est-ce pas formidable? Et tous deux sont reconnus et arrêtés sur le témoignage de citoyens appelés pour être confrontés avec Courriolle. L'accusateur oublie de dire que ses témoins concernant Guénot ont été moins affirmatifs. Mais il se hâte d'ajouter « Guénot a beau prétendre que le 8 Floréal, il a dîné avec le citoyen Clément, l'un des administrateurs du bureau central, le citoyen Clément, sous les yeux de qui, pour ainsi dire, il a été arrêté, est encore à le réclamer. Parbleu! Le citoyen Clément fait partie de la police, ne l'oublions pas. Il est de la botte, comme on dirait de nos jours. N'ayant pas été convoqué par le juge Menessier, il n'ose se présenter devant lui de son propre mouvement. Et puis, qui sait? Peut-être a-t-il reçu l'ordre de se taire. Bref, l'acte d'accusation conclu, Guénot est donc un des assassins, ou au moins un des complices. Et maintenant, au tour de l'Euzurque. L'acte d'accusation établit que 6 témoins l'ont reconnu de la façon la plus énergique. Les domestiques, qui l'ont servi à l'auberge, où les assassins ont dîné ce jour-là avec eux, et avoir remarqué l'Euzurque, qui portait un éperon d'argent à ressort, raccommodé avec du fil, qu'on a retrouvé ensuite sur le lieu où l'assassinat s'est commis. L'aubergiste, chez qui les assassins se sont arrêtés à Lieusaint, et a déposé que l'un d'entre eux avait raccommodé son éperon avec du fil, ainsi que l'était celui qu'on a retrouvé sur le champ de bataille. Enfin, un autre témoin déposa avoir vu passer 3 fois dans la soirée Courriolle et l'Euzurque devant sa porte. et l'accusateur poursuit ainsi. Si on demande maintenant à Joseph Lezurque où il a passé son après-midi du 8 Floréal et la nuit qui l'a suivi, il répond que c'est à Paris, mais rien ne le prouve. Parbleu, les témoins que Lezurque a cités n'ont jamais été entendus. Enfin, poursuit toujours le document, si on lui demande son passeport et sa carte d'identité, il est obligé de dire qu'il n'en a pas, quoiqu'il demeure depuis près d'un an à Paris. Et comme il se trouve dans sa poche deux cartes de sûreté, dont l'une sous le nom de Lezurque et l'autre en blanc est revêtue des signatures du président, du secrétaire de la section, et par conséquent, dans le cas d'être remplie à toute heure par quelque personne que ce soit, si on lui demande pourquoi il est porteur de ces cartes, il répond, relativement à la première, que c'est la carte de son cousin qui se trouve par mégarde dans sa poche, et qu'à l'égard de la seconde, qui, entre parenthèses, est très bien conservée, c'est un chiffon qui faisait partie de vieux papiers achetés par son cousin. Et à tout cela, on ajoute que, depuis le crime commis, il a constamment vu Guénaud, Richard, Courriol et Bruère. C'est faux. Qu'il n'a pas cessé de les voir jusqu'à leur départ pour Château-Thierry. C'est encore faux. Que depuis leur retour, il n'a pas quitté Guénaud. C'est toujours faux, puisque Lezurque n'a rencontré Guénaud que lorsqu'il se rendait chez le juge d'Aubenton. Enfin, qu'il fait à Paris une dépense considérable, de beaucoup au-dessus de sa fortune. Il ne restera aucun doute qu'il ne soit un des assassins, ou du moins un des complices, et qu'il n'ait partagé avec eux le fruit du crime. Mais cela ne suffit pas à l'accusateur. Dans la conclusion de son rapport qui a trait à Lezurque, il est dit textuellement ceci. Lezurque prétend avoir fait, dans l'acquisition et la revente des biens nationaux, une fortune considérable qu'il porte à 10 000 livres de rente en valeur métallique. Et il est démenti sur ce fait par les autorités constituées de son pays, qui disent qu'il a fait une fortune suffisante pour vivre aisément en travaillant, et qui le dépeignent en surplus comme un homme sans conduite et fort dépensier. Devant une pareille assertion, on demeure stupéfait. En effet, en ce qui concerne la fortune de Lezurque, il eût suffi d'en faire établir un état officiel pour acquérir la certitude qu'il n'était à ce moment-là nullement embarrassé dans sa trésorerie. Quant à sa moralité, c'est entendu, il avait une petite amie. Mais une simple enquête eût démontré que ce n'était qu'une passade, que, somme toute, on pouvait pardonner à un homme jeune, éloigné de sa famille depuis déjà un certain temps, et qui, au contraire, s'efforçait d'aménager aux siens un appartement agréable dans lequel ils allaient vivre à l'aise, dans le confort et dans l'aisance. Au lieu de charger ainsi Lezurque, pourquoi le directeur du jury de Melun n'a-t-il pas tenu compte d'un certificat signé par 21 honorables habitants de Douai, parmi lesquels 2 commissaires de police, et qui attestait ne rien connaître à reprocher à la conduite morale et politique de Lezurque Nicolas Joseph, et qu'il le connaissait, au contraire, pour un homme de probité, exempt de tout soupçon. Pourquoi passa-t-il sous silence une lettre du commissaire du pouvoir exécutif à Douai, et dans laquelle il était dit que Lezurque a de la probité, de la capacité, un caractère très sociable, généreux à l'excès, et qu'il s'est fait une fortune très avantageuse? Oui, pourquoi? Pourquoi? Nous l'avons dit plus haut, parce que le citoyen Menessier, ainsi d'ailleurs que le citoyen Goyer, que nous allons voir tout à l'heure présider au débat, était atteint de cette maladie dangereuse entre toutes, qui consiste à voir dans tout accusé un coupable. Et quand on pense qu'à cette époque, on sortait à peine de la terreur, que les juges avaient pris l'habitude de frapper à tort et à travers, de condamner presque sans discussion, sans pitié et presque toujours sans appel, et que la guillotine était devenue non pas seulement l'arme des honnêtes gens contre les criminels, mais encore un moyen de gouvernement destiné trop souvent à préserver la situation des hommes en place, plutôt qu'à sauver la République et la patrie, on est beaucoup moins surpris de voir des magistrats de ce temps prendre tant de privautés avec les principes mêmes de la justice et jouer avec des têtes humaines avec la même désinvolture que Robespierre lorsque, jouant aux échecs au café de la Régence, il se mettait à pousser sur le damier un cavalier, une tour ou une reine. Cet acte d'accusation, ainsi que nous allons le voir, allait lourdement peser sur le procès et influencer à la fois le tribunal et les jurés. Nous n'entreprendrons pas de reproduire ici ces quatre très longues audiences. Nous allons simplement les résumer, nous attachant principalement à la personnalité de Lesurque qui, désormais, va dominer tous les débats. La lecture de l'acte d'accusation terminée, le président ordonnait à l'huissier de faire retirer les témoins dans la chambre destinée à les recevoir. Puis, il procédait aussitôt à l'interrogatoire de Courriol, auquel il ne s'arrêta guère. L'accusé, sans avouer franchement son crime, ne se défendit que mollement et ne fit aux questions très serrées qui lui étaient posées que des réponses évasives et maladroites équivalant à des aveux. Ensuite, ce fut le tour de Lesurque. Pivot de l'accusation, on le considérait comme l'instigateur et l'auteur principal du crime. Très douloureux, très calme, très maître de lui, il se leva dans un profond silence. Il ne devait varier ni dans son attitude, ni dans son langage, affirmant que, le 8 Floréal, il était allé chez le citoyen Legrand, puis chez son cousin, puis sur les boulevards, où il s'était rencontré avec le citoyen Hilaire Ledru et le citoyen Guénaud, qu'il avait soupé et couché chez son cousin André Lesurque. « Comment se fait-il, objectait le président, si ce que vous dites est vrai, que vous ayez été reconnu par un grand nombre de témoins qui attestent que vous avez dîné ce jour-là à Montgeron, avec Courriol, Guénaud, et que vous avez été vu avec eux à Lieu-Saint, précisément à l'endroit où ont été assassinés Excoffons et Audebert. » Lesurque ripostait. « Ces témoins se sont trompés, et, à moins qu'il n'y ait de la ressemblance entre moi et l'un de ceux qui, ce jour-là, ont fréquenté la route de Paris à Melun, il est impossible qu'ils aient pu faire de pareilles dépositions en leur âme et conscience. » Ainsi que nous le verrons plus tard, Lesurque venait de mettre la main sur la clé du mystère. Mais le président ne semblait nullement décidé à le suivre sur cette voie. Et quand l'accusé s'écria « Ma bonne conduite et mes amis peuvent suffisamment répondre de moi !» Sur un ton plein de scepticisme et d'ironie, le président l'arrêta. « Vos amis, peut-être, mais votre bonne conduite, c'est autre chose !» Sans même se donner la peine d'interroger les autres accusés, qu'il considérait sans doute comme du menu fretin, ce singulier magistrat décidait de passer à l'audition des témoins à charge. Après avoir entendu successivement la femme Excoffons, les trois garçons de caisse de la trésorerie, Mailleux, Roussel et Martin, le maître de poste Auguste, Duclos, le brigadier de gendarmerie Huguet, qui ne firent que confirmer les déclarations qu'ils avaient faites au cours de l'instruction, comparut le citoyen Évrard de Montgeron, à l'auberge duquel, le 8 Floréal, s'étaient arrêtés les quatre cavaliers. « Reconnaissez-vous les particuliers qui sont sur ces bancs ?» lui demanda le président Goyer en lui désignant les accusés. Après les avoir regardés attentivement, le témoin déclarait « Je reconnais le premier, Courriol. Et les autres? Je reconnais bien le deuxième, Lesurc. Cet homme se trompe, s'écria Lesurc. Jamais, je vous le jure, citoyen président, je n'ai été à Montgeron. Tour à tour, les citoyens Champeau et sa femme, la fille Santon, viennent déclarer qu'ils reconnaissent Courriol, Lesurc et Bernard. La fille grosse tête ajouta à ses déclarations premières que Lesurc était bien celui qui vint le premier à l'auberge demander à dîner pour lui et ensuite pour trois autres voyageurs. Marie-Thérèse Gilbert déclara avoir vu le 8 Floréal passer à diverses heures devant sa porte à Lieu Saint deux particuliers, l'un brun, l'autre blond, ayant l'un et l'autre des bottes molles et des éperons façon argent. L'un était habillé d'une redingote brune tirant sur le marron, l'autre d'un habit bleu et d'un chapeau rond. Parmi les accusés, elle affirma qu'elle reconnaissait très bien Courriol et Lesurc. Voilà donc six témoignages affirmatifs, nettement et sans embâge, ainsi que le fit observer le président au juré. Les autres témoins qui vont suivre furent moins formels. En effet, voici Charles Thomas Alfroy, pépiniériste à Lieu Saint, qui déclare avoir vu, entre 8 et 9 heures du soir, deux particuliers se tenant sous le bras. Il s'en est approché et a reconnu que l'un avait un habit bleu et un chapeau rond. Il croit que c'est Lesurc, mais il n'en est pas sûr, parce qu'il faisait un peu sombre. Voici maintenant Pierre Gillet, marchand de vaches à Lieu Saint. Sans la moindre hésitation, il reconnaît Courriol. Quant à Lesurc, il en est beaucoup moins certain. De même, Perrault Antoine, lui aussi, reconnaît formellement Courriol. Mais au sujet de Lesurc et Guénaud, il n'ose pas se prononcer, bien que le président essaie de lui arracher une affirmation décisive. Tandis que les débats se déroulaient, une jeune femme, vêtue de noir, ne quittait pas des yeux l'infortuné Lesurc. C'était une femme douce et bonne, fort jolie d'ailleurs, et qui, sous des apparences un peu timides, un peu frêles, cachait un ardent foyer de tendresse, d'amour et aussi de volonté. Dès qu'elle eut appris l'arrestation de son mari et l'accusation effrayante qui pesait sur lui, sûre d'avance qu'il ne pouvait pas être coupable, la citoyenne Lesurc était immédiatement accourue à Paris avec ses enfants et, ne voulant même pas savoir s'il s'était rendu coupable envers elle d'une infidélité que son intelligence autant que son cœur lui pardonnait d'avance, elle s'était consacrée entièrement à la défense de son mari, s'occupant de lui trouver un avocat, de réunir tous ses amis, et de les prier, de les supplier, de les aider à sauver celui qui, malgré les apparences, restait pour elle un innocent. Pendant toute cette longue audience, qui, nous devons le reconnaître, n'avait guère été favorable à Lesurc, la pauvre jeune femme avait gravi un dur calvaire, et lorsque, le président ayant levé la séance, elle vit son mari quitter la salle entre les deux gendarmes, brisée par une détresse voisine du désespoir, elle éclata en sanglots et chancela dans les bras de ses amis qui s'empressaient autour d'elle. Lesurc, qui l'avait reconnue, lui adressa un geste d'encouragement, car encore il croyait en la justice immanente et il comptait sur l'audience du lendemain où l'on devait entendre les témoins à décharge qu'il avait cités, pour établir, au grand jour cette fois, et sans aucun étouffement possible, la réalité des alibis qu'il avait invoqués. Hélas, la fatalité pesait sur lui, et la seconde audience devait être pour lui encore plus défavorable que la première.